c'était la porte de leur salon et se sentir chez eux, quoi.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Reportage de Joël Flambard pour l'autre radio.
Radio G en DAB+ sur Angers.
Radio G,
nos différences.
101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture un mercredi sur deux sur Radio G. Salut, ça va salut, Seb?
Salut.
Salut Romain.
Salut. Ouais.
Alors ce soir, eh bien, on se retrouve pour une émission, comme d'habitude, pleine de cinéma, de musique, de séries télé, de bandes dessinées, tout ce qu'on aime. Et on fait un petit coucou à Pablo, bien sûr.
Ouais. Coucou Pablo. Est-ce qu'on peut faire un petit coucou de manière globale aux femmes en cette journée particulière?
Et évidemment, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes.
Alors, j'ai entendu un truc. Est-ce qu'on fait un débat tout de suite?
Non.
Non. On ne fait aucun débat.
Ouais, c'est-à-dire que c'est pas tellement l'objectif de l'émission, même
c'est vrai,
si on pourrait le faire, mais on va peut-être organiser ça.
Bien sûr,
parce que
sûr.
Spontanément, comme ça, sans préparation, ouais, je suis pas sûr.
Ça risque de déraper, là, franchement.
Alors,
là,
non, on n'est pas comme ça.
Ouais.
Alors, on va démarrer l'émission avec de la musique, Seb.
Ouais.
Qu'as-tu dans ton panier?
Alors, moi, j'ai rien dans mon panier, c'est ton panier, hein.
Il a pioché dans mon panier.
J'ai pioché dans ton panier. Donc là, je sais pas, j'ai trouvé un petit KMFDM. Anarchie.
Dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point. Ouh. Alors attention, j'essaye de lancer ça correctement.
Mais oui.
Et avec talent, ça, comme
et
d'habitude.
Avec talent. Mais on va essayer, de toute façon.
D'ailleurs, c'est
essayer.
Mon pote Jean-Claude qui adore ce groupe, KMFDM. C'est un groupe allemand qui fait de la musique industrielle, un petit peu du métal industriel.
Et ça veut dire quelque chose en allemand, j'imagine.
Ouais, mais je sais pas ce que tu dis, ce que ça veut dire.
Ça veut dire, c'est parti maintenant.
It is very important to play the record over and over. Because you learn by listening. Later on, we will tell you how to order breakfast just as you would in any colorful German restaurant.
We'll be right back.
FDM Anarchy dans Bande Geek Mafia.
Ça fait du bien, ça.
Pas mal, hein.
Ça décrase un petit peu quand même. Hein.
Comme disait Francis Zégut,
les Cajamiel.
Ça nettoie les Cajamiel.
Ouais, ouais. Bien sûr.
Un petit peu de cinéma peut-être, Seb.
Oui, un petit peu de cinéma. Allons-y, allons-y. Tcha. Tu veux un petit générique, hein,
bah, ça, pourquoi
ouais.
pas.
Ouais. Ça
sinon, on
mieux.
Démarre direct.
Bah ouais. Ouais, mais attends, bouge pas. Je vais t'en trouver un jingle générique. Oh, je sais pas. Tiens, allez, celui-là.
C'est la bonne franquette.
C'est ça.
C'est,
ouais, ça.
C'est la bonne franquette. Hein.
On sert. Vous pouvez prendre les
doigts. On sert.
C'est Momo.
Ouais, bah Momo, il a un problème.
Ouais, c'est pas grave.
Non, t'inquiète, on peut se lancer.
Ah, j'entends quelque chose.
Les conditions.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ça, c'était le jingle d'Antonio quand il faisait des chroniques cinéma. Ouais, c'est cool.
Ouais, et puis quand c'est pour lui, du coup, on le salue.
Salut Antonio. Alors, ce soir, Romain et moi, on va vous parler de trois films. Moi, je vais vous parler de The Fabelman, le dernier film de Steven Spielberg. Et toi, Romain?
Eh bien, de Tar et de Retour à Séoul.
Tar.
Ouais, mieux vaut Tar que jamais.
C'est ça. Vieux motard que j'aime. Bon, bref. Alors attention, il y a Seb, il y a Momo à la technique qui est là. Il arrive, il prend un casque. Alors, le cinéaste Steven Spielberg, le grand Steven Spielberg, il aura attendu son 34e long métrage pour signer son film le plus personnel. À travers une reconstitution, alors plus ou moins romancée, de sa propre jeunesse et un double de fiction, Sammy Fabelman, qui lui ressemble comme un frère, le roi du divertissement hollywoodien retourne avec humour et une émotion communicative aux sources de sa vocation de cinéaste. C'est-à-dire qu'en fait, il nous raconte sa première fois devant le grand écran avec, à l'âge de 6 ans, la découverte à la fois émerveillée et traumatisante de « Sous le plus grand chapiteau du monde » de Cecil B. 2000.
Et tu me fais peur, la première fois de quoi ?
Ben, je viens de le dire.
Ah oui, non, j'ai eu peur.
Devant le grand écran,
d'accord.
Voilà. Ses premiers courts-métrages, donc, il les a tournés à domicile, avec ses petites sœurs, transformées en momies, par exemple, avec du papier toilette. Ça, c'est assez sympa. Il y a beaucoup de nostalgie, en fait, dans ces scènes pleines de drôleries, mais il y a aussi de la tristesse, il y a aussi de l'angoisse, qui ne sont jamais très loin. Car The Fabelman, qui est sorti en France le 22 février, après une série d'avant-premières, hein, au festival Cinéma Télérama aussi, ça raconte la fin de l'innocence. Ça raconte la fin de l'innocence et le délitement d'un couple, les parents de Steven Spielberg, interprétés magistralement par Michelle Williams et Paul Dano, grand acteur, auquel assiste impuissant le fils adolescent. Donc le jeune Sam, Steven en fait, trouve alors dans la pratique du cinéma un refuge consolateur qui lui permet de fuir, voire de sublimer le monde réel et ses injustices, mais aussi de révéler sa vérité, si cruelle et douloureuse soit-elle. C'est-à-dire la séparation de ses parents. Donc nous avons pu, dans Télérama, lire une interview vraiment hyper intéressante de Steven Spielberg. Je vous conseille, c'est dans le Télérama du 8 février 2023. Parce que ce film, aux États-Unis, c'est un échec. C'est un échec au box-office, voilà. Alors que ça va être un triomphe aux Golden Globes, voilà. Et qu'on annonce 7 nominations aux Oscars. Donc, ça n'a pas eu de succès en salle aux États-Unis. Ça va avoir plein de prix parce que le film est génial. Et ça a un énorme succès en France. Et même Steven Spielberg a fait une vidéo pour remercier les Français d'aller voir son film. Voilà.
On est beaucoup plus sentimental sur Spielberg.
Bah, je pense qu'on aime beaucoup le cinéma de
Spielberg. C'est vrai. Alors, dis-moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que tu l'as aimé, ce film?
Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film. On l'a vu avec Florence. Oui. Et en fait, on n'a pas vu le temps passer, déjà. Alors que le film dure bien 2h30, je crois.
Ah oui, c'est ça.
Et c'est vraiment un film sur l'amour du cinéma. C'est vraiment. Alors on avait vu Babylone, qui était un film sur les origines du cinéma, mais un film tonitruant, un peu hystérique. Là, avec The Fabelman, c'est un film sur l'amour du cinéma et comment un jeune garçon devient un grand cinéaste. Enfin, c'est vraiment tout petit au départ. Hein. C'est des petits films faits à la maison. C'est avec ses copains boy scouts. Enfin, c'est plein de tendresse, c'est plein d'humour. Et puis c'est une histoire de famille aussi. Et je pense qu'on peut, on peut se retrouver dans cette histoire. Et puis, il se dévoile, c'est la première fois. Dans ses films, souvent, Spielberg, il le dit, il distille même, je dirais, quelques éléments de sa biographie, mais c'est jamais explicite. Et c'est la première fois dans ce film que ça devient explicite et qu'il nous parle. Ça m'a fait penser, tu sais, au film qu'on avait adoré, Armageddon Time.
Ah oui, tout à fait.
Effectivement. Ouais. Où là exactement. Aussi, il racontait son enfance.
Exactement.
Bon, alors, c'est pas la même époque, c'est pas le même contexte, mais mine de rien, il y a cette tendresse, il y a cette, euh, Transmission aussi. Non, mais c'est pas du tout. Alors, Seb, non. Je le vois qui fait des gestes. C'est pas du tout mièvre.
Ni larmoyant. Pas du tout.
C'est très drôle. C'est très drôle, très touchant. C'est hyper rythmé parce que c'est un film de Spielberg. Il y a même une baston à un moment donné. Il y a une bagarre dans un lycée. Enfin, donc non, on s'ennuie pas du tout. Ça se passe dans les années 50-60 et il y a de grands acteurs et c'est très très chouette.
Mais c'est ça, c'est évidemment un bel objet cinématographique. C'est beau à voir. C'est vraiment des beaux plans et ainsi de suite. Et puis il y a presque un côté didactique presque sur un petit peu comment fonctionne le cinéma, un peu les ficelles absolument.
Ouais. Et comment faire des effets spéciaux avec pas grand chose.
Mais c'est ça. Et puis même simplement un truc tout bête, les gens savent pas tous comment fonctionne un film et comment on arrive à faire du mouvement à partir d'images fixes. Mm-hmm. Et tout ça, ça pourrait vraiment être un truc didactique où tu pourrais montrer à des gens des petites choses comme
didactique,
ça.
Didactique, c'est aussi ça pourrait être un petit peu pas péjoratif, mais ça pourrait faire fuir les
gens.
Non,
c'est pas le cas. Il y a pas que ça.
C'est pas seulement ça.
C'est pas très scolaire.
C'est pas scolaire. Voilà.
C'est un petit clin d'œil à Tony.
Ah bon?
Mais non, mais oui, il n'y a pas que ça, mais c'est un joli film. La manière dont il a grandi grâce au cinéma et aussi la manière dont finalement l'influence qu'il a pu avoir sur. J'ai trouvé ça joli. Et surtout le rôle de l'actrice.
Michelle Williams, qui joue sa mère.
J'ai trouvé exceptionnel.
Elle est géniale.
Pour moi, celle qui joue
et
le mieux.
Paul Dano aussi qui joue son
père. Ouais, bien sûr.
Donc voilà, on vous conseille The Fabelmans. Allez-y. C'est un très bon film de Spielberg. Voilà. Alors Romain, toi, tu veux nous parler de Tar. Et de retour à Séoul.
Alors, ces deux films ont un point commun.
Ah.
Petite interro surprise.
Ok.
Lequel?
Allons-y également.
Bah ouais. Alors, quel point commun? Je vous écoute.
C'est une actrice le personnage principal est féminin parce que c'est la journée.
Bravo, mais il est incroyable. Il est très fort.
C'est facile, c'est la journée internationale des droits des femmes.
Évidemment, j'ai fait exprès. Non, pas du tout. C'est un heureux hasard. C'est vraiment très très bien. Alors, je vais commencer par Retour à Séoul de David Chou, le réalisateur, et dont l'actrice est Park Jin-min, j'espère que je prononce bien. Je vous lis le synopsis rapidement, puis je vous en dis un petit mot. Sur un coup de tête, Freddy, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues. Alors, ce film, je l'ai vraiment beaucoup aimé, on en avait parlé, parce que c'est un peu, j'ai envie de dire, l'éloge de la délicatesse. Alors, tout se fait de manière assez feutrée, tout se fait de manière subtile. Et bon, il faut aimer ce genre de film, bien sûr. Hein, c'est relativement long, ça fait 2 heures pour ça. Mais c'est un peu un film de taiseux. Si vous aimez les films de taiseux, je vous rappelle.
Toi, t'aimes bien, toi.
Ouais, je vous rappelle The Banshees of Inisherin. Voilà. Mais en tout cas, c'est la quête d'une jeune femme. Évidemment, comme je l'ai mentionné sur ses origines, et pour vous la faire courte, elle part donc en Corée dans le but de retrouver évidemment ses parents génétiques, parce qu'elle a des parents en France. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que va se confronter un peu la culture française, parce qu'elle a été élevée comme ça, elle a un côté un peu les parisiennes d'ailleurs, avec les codes sociaux qui sont ceux de la Corée et qui vraiment changent complètement. Et donc, il y a vraiment ce côté-là intéressant sur le choc des cultures et sa manière d'être aussi, qui est elle un petit peu, comment je dirais ça joliment, des fois un peu provocatrice, un petit peu, voilà, elle ose quoi, à la différence des codes sociaux d'autres jeunes qu'elle va rencontrer coréens qui sont beaucoup plus, qui ont des attitudes beaucoup plus feutrées, beaucoup plus dans la retenue. Et donc, elle va vraiment dénoter avec tout ça. Mais surtout, on va vite voir qu'en fait, c'est une écorchée vive sous des airs de, justement, je me sens très à l'aise parce que tout va bien dans ma vie et voilà, je suis facile par rapport aux relations sociales. En réalité, se cache une vraie blessure qui est celle de ne pas, enfin l'incompréhension liée à l'abandon, tout simplement. Et donc, elle va rencontrer son père qui joue très bien à mon sens, qui est lui aussi un écorché vif, qui est alcoolique et ainsi de suite, et qui va se montrer un peu oppressant à son sens, mais finalement, je vous laisse voir le film. Et surtout, elle ne va pas rencontrer sa mère, alors qu'elle venait aussi pour rencontrer évidemment sa mère au départ. Et ça va être long, et finalement, alors que ça devait être un bref passage en Corée, sur un soi-disant coup de tête, il y a comme quelque chose, on va dire, d'invisible qui va la retenir à la Corée, comme une sorte de cordon ombilical, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est le fait de vouloir retrouver sa mère. Alors elle y reste, et est-ce que à la fin, finalement, elle va y arriver ou pas? Je vous laisse voir le film pour ça. Mais en tout cas, c'est une très belle quête, justement, de l'identité et de initiatique pour une jeune femme qui veut grandir, tout simplement.
Ouais. En clair, elle a juste à franchir la frontière, mais là, c'est un peu plus compliqué.
Non.
Est-ce que c'est un film sur l'adoption?
Ou pas du tout. Bah, ça le traite d'une certaine façon. En tout cas, des éventuels. Oui, parce que si tu veux, elle va rencontrer d'autres jeunes qui ont une toute autre manière de gérer l'adoption et puis justement l'envie de rencontrer leurs parents génétiques tout en étant tout à fait bien dans leur nouvelle vie. Et elle, sous des airs de je me sens bien, en réalité, ça va pas bien du tout.
Elle est un peu paumée en fait.
Elle est un peu paumée. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une de ses amies qui lui dit à un moment, elle essaie de l'embrasser. Hein, je ne spoile pas trop. Je ne divulgage pas trop. Non, mais c'est vraiment un détail du film. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très révélateur, c'est une super jolie scène. L'autre jeune femme a un recul comme ça, et elle lui dit tu es vraiment quelqu'un de très triste. Et waouh, ça te laisse, parce que effectivement en une petite phrase très simple, elle a tout résumé sur le début du film. Et vraiment, alors qu'elle paraissait un petit peu en retard par rapport à cette jeune femme qui a l'air beaucoup plus à l'aise, qui laisse même un peu l'impression, sans mépris, mais qu'en gros elle est un peu plus avancée que les autres, et bien finalement ceux qui sont plus taiseux parfois ont un regard beaucoup plus lucide sur les situations. C'est très joli comme film.
Et là, à ce moment-là, elle dit « Je suis ta mère ».
Non, toujours pas. C'est une jeune femme du même âge.
Ouais. Ah, bah, alors, t'avais pas précisé. Ouais.
Deuxième film pour toi, Romain. Troisième film pour le.
Alors, je vais essayer d'être un plus court sur celui-ci. Tar, du nom de... TAR, avec un accent sur le A. Lydia Tar, chef avant-gardiste d'un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre symphonie numéro 5 de Gustav Mahler. Mais, en l'espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d'une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société. En gros, cette chef d'orchestre est jouée par Kate Blanchett, que jusqu'alors j'avais trouvé, je sais pas, il y avait quelque chose sur son visage que je trouvais toujours impassible, il y avait cette froideur un petit peu.
Et oui, jouait une elfe dans...
Absolument, on pense à ça notamment, mais pas que, mais c'est effectivement
ça. Seigneur des Anneaux.
Absolument. Et là, donc, on va suivre un peu la grandeur et décadence d'une chef d'orchestre à qui, finalement, tout réussit, qui est vraiment une surdouée dans ce domaine-là. Et finalement, alors qu'il y a une forme de... Voilà, elle est un peu décalée, il y a une vraie obsession du détail, obsession de la perfection de son côté. Finalement... dans sa musique, donc, c'est finalement aux antipodes de ce qui se passe dans sa vie, parce qu'on va assez vite voir, enfin, au début du film, on le sous-entend, mais ça va pas aussi loin, on va voir finalement que elle traîne des casseroles. Et que, voilà pourquoi on parle de résonance avec des choses actuelles. Elle a connu des histoires, on va dire sentimentales. C'est une croqueuse de femmes, tout simplement, on peut le dire comme ça. Mais elle se fiche un peu des éventuels dommages collatéraux que ça peut occasionner. Et voilà, dans le film, on va justement suivre des affaires qui commencent un tout petit peu à s'ébruiter au début du film et qui vont prendre de l'ampleur jusqu'à justement provoquer sa chute à un moment.
Donc elle abuse de son pouvoir, c'est ça ?
Elle abuse clairement de son pouvoir. Elle va d'ailleurs essayer de nouveau, une nouvelle fois, parce qu'on voit que c'est une comment dire, récidiviste, pendant le film. Et là, cette fois, elle va se faire abuser cette fois par une jeune femme, parce que la jeune femme, en réalité, n'a pas les mêmes aspirations qu'elle. Elle pense pouvoir user de son influence et de son aura pour de nouveau la séduire. Et alors qu'en réalité, dans le film, il y a une autre jeune femme qui appelle à l'aide parce qu'elle a été un peu sa petite préférée. Elle était sous son aile. Et une fois que, en tout cas, le sentiment où va savoir quoi est passé, elle l'a un peu laissé alors que l'autre est resté dans une détresse énorme. Qui l'a conduit à des choses dramatiques. Mais c'est un film magnifique et je dirais surtout que je trouvais que Kate Blanchett était exceptionnelle et j'irais même jusqu'à dire ce que je t'ai dit quand on s'est vu. Je pense que c'est clairement un rôle à Oscar. Je la trouve exceptionnelle.
Elle a eu le Golden Globe, je crois.
Ouais, mais je. Ouais, bah,
elle aura sûrement l'Oscar.
Ça m'étonne pas. Tout à l'heure, quand tu parlais des nominations pour The Fabelmans, je pense que ça va se jouer entre sans doute les deux parce que je vous conseille d'aller voir ce film. Je la trouve absolument exceptionnelle, aussi bien dans son aisance quant à la perfection et ainsi de suite que dans le côté un peu débordé. Je l'ai découverte à la limite Kate Blanchett parce que jusqu'alors je la trouvais bonne actrice mais là je l'ai trouvée vraiment formidable.
Donc c'est un film à Oscar.
Absolument.
Merci Romain.
Merci beaucoup. Et si on écoutait un petit morceau de musique
c'est
maintenant
parti.
Tu nous proposais toujours dans ton panier, puisque je pique dans ton panier allègrement, un petit morceau de Gojira.
Oui, parce que je vais vous parler du concert de Gojira à Bordeaux juste après. On écoute le dernier titre de Gojira, c'est Our Time Is Now, dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Alors après ce petit morceau de Gojira, Our Time Is Now, je vais vous parler du concert de Bordeaux. Alors pourquoi Bordeaux? Parce qu'ils ne sont pas passés à Nantes, ils ne sont pas passés à Angers. Alors le plus près c'était Bordeaux ou Paris. Bon, on a choisi Bordeaux. Alors, Gojira, c'est un groupe de death metal progressif français. C'est un groupe qui a démarré dans les années 90 et qui aujourd'hui connaît un succès phénoménal autant en France qu'à l'étranger. C'est devenu une des têtes d'affiche hein, des festivals de métal. On les avait vus plusieurs fois au Hellfest. Et donc là, on devait y aller en février 2022, voir ce concert. Et puis, il a été reporté en février 2023.
On se demande bien pourquoi.
Ah, voilà, à cause d'un certain virus.
Bon.
Alors, c'était quand même un coup de bol parce que c'est tombé pendant les vacances de février, donc c'était très bien. Et ce qui nous a permis, donc avec Florence et Jean-Claude, de nous retrouver à l'Arkea Arena de Bordeaux, c'est-à-dire l'équivalent d'un Zénith en fait à Bordeaux, qui était plein hein, pour Gojira, parce que on en parlait tout à l'heure. Gojira, c'est un groupe des Landes, c'est le sud des Landes, juste au nord de Bayonne, donc c'est pas loin de Bordeaux. Ils ont fait toutes les salles de concert dans la ville de Bordeaux, ils connaissent bien. Donc ils étaient chez eux un peu. D'ailleurs, c'était vachement sympa parce que ils étaient hyper détendu, ils jouent à la maison quoi. Pour vous parler du concert, il y avait deux premières parties. D'abord, il y avait Employ to Serve, qui est un groupe de metalcore anglais qu'on a découvert à cette occasion, et puis Alien Weaponry, qui est un groupe, ça ressemble un peu à du Sepultura, mais c'est un groupe néo-zélandais qui chante en maori. Alors ça, c'était assez marrant. C'est des jeunes d'ailleurs, voilà, donc des découvertes plutôt sympas. Et puis ensuite, Gojira est arrivé et là ça a été phénoménal. Je crois que c'était moi je les ai vus au moins quatre fois à Gojira. C'était un de leurs meilleurs concerts avec le dernier qu'ils ont fait au Hellfest, parce que c'était super bonne ambiance dans le public, plein de titres de tous leurs albums. Et puis ils étaient contents d'être là quoi. Clairement, ils se sont donnés à fond, ils étaient à la maison. Et puis, Gojira, c'est devenu une valeur sûre, quoi. Vous allez voir ce concert, vous êtes forcément pas déçus. Surtout que le lendemain, ils allaient jouer à Bercy. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un groupe français remplit Bercy comme tête d'affiche. Il y a des groupes français qui ont joué à Bercy en première partie, hein, d'autres groupes très célèbres. Et là, eux, ils ont carrément rempli 20 000 places, Bercy. Hein, ils ont rempli Bercy. Donc ça, c'est du jamais vu pour un groupe de métal français. Et puis, ils sont en tournée, hein. En Angleterre, en Allemagne, etc. Donc voilà. Alors ça peut faire peur parce que c'est du métal, surtout que c'est du death metal, donc avec une voix un peu rauque, avec des riffs un peu agressifs. Mais Gojira, il y a quelque chose, il y a une patte, il y a un style, il y a un son en fait très particulier qui fait que ça passe plutôt bien. Et ce qui est très surprenant, ce qui surprend même les musiciens du groupe, c'est qu'un groupe de death metal ait autant de succès. Parce qu'on a des groupes de métal très célèbres comme Metallica, etc. Mais c'est pas aussi extrême, on va dire, comme musique. Et là, ça passe parce qu'il y a cette qualité, il y a cette virtuosité et cette ambiance. Et puis des textes engagés. Hein. Gojira, ils sont très engagés pour l'écologie. Alors là, il y a beaucoup beaucoup de textes qui pour la défense de la planète, des animaux. Il y a un titre sur le dernier album qui s'appelle Amazonia. Et les fonds étaient récoltés hein, pour reboiser l'Amazonie. Enfin voilà. Donc ce sont en plus des musiciens intelligents, engagés. Voilà.
Ils ont tout pour plaire, vraiment.
Voilà.
Non, franchement.
Ils ont tout pour plaire. Donc voilà. Je voulais partager ça avec vous, faire découvrir ce groupe, et puis vous dire aussi qu'on. On parlera du Hellfest prochainement, puisque comme tous les ans, on fera des émissions spéciales métal et spéciales Hellfest, hein, avant le festival au mois de juin et après le festival, bien sûr. Et peut-être qu'on reparlera de Gojira, même s'ils ne sont pas au Hellfest cette année, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc voilà, écoutez du métal, n'ayez pas peur, jetez une oreille, c'est facile sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. Voilà, vous avez entendu Our Time Is Now, ça peut vous plaire. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup.
Bah ouais, ça nous a
donné envie.
Ah hein,
c'est
cool,
clair. Moi, je vous propose de continuer encore avec un petit morceau de musique.
Bah oui.
Hein, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, un petit Foo Fighters.
Très bien. Attention, celui-là, il est hyper violent.
C'est lequel?
Parce que c'est The Color and the Shape.
Oui,
ah, c'est sur le deuxième album.
Ah, il est vraiment.
Alors, celui-là, il est très punk, hein, très Nirvana.
Alors, attention.
Sur Band Geek Mafia.
C'est parti. Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Yeah!
Eh ben ça aussi, ça décarasse les cages à miel, hein, comme dirait Tonton Zig.
ça tabasse vraiment.
Un tout petit peu.
C'est un petit bonus de l'album The Color and the Shape.
Ça fait du bien quand même, un petit peu, de temps en temps. Voilà.
Avec Monkey Wrench, notre nos morceaux préférés.
Exactement. Là-bas. On voulait vous conseiller, si jamais...
Seb, c'est à toi, c'est la BD.
C'est à moi, c'est terminé. Là, on se laissait porter.
C'est l'heure de la bande dessinée.
C'est l'heure de la bande dessinée. Bah, je vais pas vous mettre de générique.
Non, hein, qu'as-tu donc dans ton panier?
Voilà, on les fait à la bouche, hein, si tu veux.
Alors, ce que j'ai dans mon panier, c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est une collection extrêmement intéressante. Depuis l'été dernier, Urban Comics a décidé de sortir une série qui s'appelle Urban Comics Nomad DC et qui reprend finalement les grands titres comme par exemple The Watchmen et format on va dire dit de poche, enfin bref, ouais, si vous réussissez à mettre dans la poche, ouais, c'est une belle poche, hein, mais en même temps qui permet comme ça aux gens aussi de pouvoir avoir accès et bien finalement à cette série à des tarifs qui sont quand même relativement intéressants, puisqu'il y a trois catégories à peu près de tarifs. Grosso modo, on va du moins cher qui est à peu près aux alentours de 5 euros, jusqu'au plus cher.
Excusez-moi, je sens que je vais pas tarder
attention, il va tousser.
J'ai toussé, mais j'ai coupé le micro quand même. Hein.
Oh, oui, ah, quel talent, ça. C'est un professionnel.
Donc voilà, donc 5 euros pour le moins cher. Pour le plus cher, on est à 10 euros.
Oh, ça va.
Ça va. Et Watchmen intégral, 10 euros.
Parce que normalement, c'est un grand format, ouais, qui coûte beaucoup plus cher.
Qui coûte beaucoup plus cher.
Là, on l'a en poche, en fait.
Format poche, mais bon, comme on disait, une belle poche. Donc voilà. Et ça permet comme ça de découvrir des titres assez sympas.
Surtout Watchmen, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais. Ça fait partie de la première vague. En clair, ils ont décidé de faire plusieurs vagues comme ça pour découvrir. On est là, la deuxième vague vient de sortir et la troisième vague, c'est-à-dire toute une série de titres, va justement sortir au mois de mai de cette année. Et parmi cette série, moi j'ai découvert un univers génial, une série qui s'appelle Fable. Je ne sais pas si vous la connaissez, que je ne dise pas de bêtises, de Bill Willingham et de Mark Buckingham. Et donc, voilà. Ça, c'est carrément génial parce que ça va vous rappeler aussi une série éventuellement. Les fables ne sont plus en sécurité. Leur ennemi de toujours est en marche et a bien l'intention de conquérir Fableville. Pour défendre leur terre et protéger leur communauté, il leur faudra donc s'unir et préparer militairement à l'offensive de l'adversaire et de ses soldats de bois. Plus inspiré d'Andersen et des frères Grimm que de Walt Disney, Bill Willingham a imaginé avec Fable une saga qui tient ses lecteurs en haleine durant plus de 10 ans, mêlant bataille épique, destin tragique, relations intimes, en une fresque digne des plus grands classiques de la bande dessinée internationale. Découvrez le quotidien de Blanche-Neige, du grand méchant loup, des trois petits cochons, de Pinocchio et de toutes les créatures fabuleuses nées du folklore mondial, désormais contrainte de vivre ensemble. Donc voilà. Et la série Fable a été sélectionnée dans le cadre d'un des festivals d'Angoulême et récompensée, parce que récompensée, ça ne veut rien dire du tout, récompensée par 15 Eisner Awards, la plus haute distinction de la bande dessinée américaine. Donc voilà, format de poche, donc normalement il y aura 10 volumes pour reprendre ça. Et honnêtement, c'est vraiment super. Ça fait penser à la série Once Upon a Time.
Yes. Tu l'as bien vendu, en tout cas, ça a l'air d'être un bel objet.
Toi, Romain, ça te faisait penser à quelque chose aussi.
Non, c'est simplement Fable, ça me fait, je faisais le lien avec Fableman tout à l'heure. Ouais, ni plus ni moins, simplement. La boucle est bouclée.
L'homme Fable. Alors, je voudrais dire quand même un mot sur Watchmen qui est sorti dans cette série. Ouais. Watchmen, c'est un chef-d'œuvre. Donc, si vous pouvez l'acheter entre 5 et 10 euros, allez-y. Hein, parce que c'est quand même l'histoire de toute un groupe de super-héros. Alors, qui sont complètement, pas du tout célèbre. En fait, c'est un univers parallèle aux super-héros d'ici, avec des super-héros qui sont plutôt des anti-héros, en fait, clairement. Et c'est scénarisé par le très grand Alan Moore, qui est un super scénariste de BD anglais. Et donc, c'est une BD, on va dire, anglo-américaine, en fait. Hein. Oui. Ça raconte, ça se passe pendant la guerre froide, ça raconte un peu la fin du monde. Enfin, c'est une dystopie Voilà, Nixon est toujours au pouvoir aux États-Unis et les super-héros ne sont plus ce qu'ils étaient. Et c'est génial. Il y a aussi un film que je vous conseille qui est pas mal du tout.
Il y a eu aussi une série qui était passée quelques temps, qui est pas mal. Alors donc, dans la série, vous avez par exemple Joker, Superman, Red Son. Vous avez aussi Y, le dernier homme. Donc les tomes 1 et 2 là viennent de sortir, V pour Vendetta par exemple, et puis la Justice League bien sûr aussi en même temps, et donc ça vous permet comme ça d'avoir ce contact avec ces héros que l'on peut connaître et ces univers que l'on peut découvrir aussi à un tarif, comme on peut dire, extrêmement attractif.
Superman Red Son, c'est un truc génial parce que c'est Superman en fait n'est pas américain mais il est soviétique.
Voilà. Eh ben 152 pages pour 5,90€.
Ouais. Excellente BD, excellent.
Et voilà.
Allez-y, c'est plus que des BD, c'est des romans graphiques.
C'est des romans graphiques, c'est carrément génial.
Alors après, en petit format, forcément, on perd un peu en image, on perd un peu en qualité, c'est plus petit, mais ça vaut le coup parce que c'est pas cher.
C'est pas cher et ça permet de découvrir comme ça. Donc voilà. Un petit morceau de musique,
bah,
messieurs.
C'est parti, hein.
C'est parti. Alors, on va partir.
Passion Coco.
Passion Coco.
Ouais.
Est-ce qu'on a tous choisi des titres? Alors là, c'est Romain qui a choisi.
Une femme qui chante. Ah, c'est un hasard, je ne crois pas.
Passion Coco.
Mais en tout cas, c'est aussi un clin d'œil à d'éventuelles futures vacances que je n'ébruiterai pas,
oui,
mais qui devraient arriver.
Oui,
ah, c'est ça.
En Andalucía.
Effectivement.
Et comment se llama la canción? Non, dis pas comme ça.
Pedacito de tel.
Comment se llama, c'est comment ça s'appelle?
Oui, c'est ça. Bah, si, c'est très bien.
Tu peux dire ça.
Comment se llama la canción? Pedacito de tel.
Pedacito de tel. Tu veux dire?
Petit morceau de tissu.
Un petit morceau de tissu.
Et donc c'est parti, c'est tout de suite maintenant.
Dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Ça,
on a Momo qui ne prévient pas quand il allume le micro. Fais-nous des signes.
Il nous fait des interro surprises.
Il est derrière sa console et il nous fait pas signe.
Courage, Carrie, j'ai pas de pouvoir pour l'instant.
Ah, j'ai reconnu la musique, c'était Wet Leg derrière moi.
Ouais, c'était Wet Leg.
Eh oui, ben ça c'était la publicité.
Ah, d'accord. Non, okay. On dira pas pour qui.
On dira pas pour qui. Voilà.
Alors, nous on voudrait Romain et moi parler d'une petite série.
Ah ouais.
Enfin une grande série d'ailleurs, oui, oui. Qu'on adore. Alors c'est pas nouveau, culte. C'est culte. Voilà. On voulait parler d'une série culte, pas d'une nouveauté, parce que dans les nouveautés finalement on n'est pas en cours.
Pas encore, ouais.
Ouais. Enfin si, on avait parlé de Mercredi mais c'est passé, enfin bon. Alors maintenant c'est The Office. Alors The Office, c'est d'abord une série anglaise,
oui,
qui a été adaptée aux États-Unis avec le très grand Steve Carell,
oui,
un humoriste américain que vous avez vu dans plein de films, 40 ans toujours puceau, et d'autres. Et, oui, un très joli film, Little Miss Sunshine aussi.
Ah, où il y avait l'acteur de The Fabelmans dedans aussi.
Ah oui, Paul Dano.
Et
exact,
ouais,
tout à fait.
Ouais.
Et ouais, tout à fait. Non, mais la boucle est bouclée.
Exact.
Bonne soirée.
C'est ça.
Alors, The Office, Romain, on va en parler rapidement parce, ouais, qu'on aime tous les deux cette série. Moi, je suis en train de la regarder avec Florence. Toi, tu l'as déjà vue.
Ah,
tu l'as vu toutes les, ouais, voilà. T'as vu toutes les saisons. Nous, on est à la saison 4. Toby, sur le départ. Voilà. Donc, on est dans un bureau. The Office, c'est un bureau. Dans une entreprise de papier, Dunder Mifflin. Et le, on va dire le directeur régional, hein, de cette branche de Dunder Mifflin s'appelle Michael Scott, et joué par le grand Steve Carell. Et Michael Scott, ce qu'il veut, c'est être aimé de ses employés.
C'est ça.
Hein, il veut être,
il est excentrique.
Ami. Il est, alors, il est très excentrique, il est farfelu, il rigole. C'est un vrai gamin. Il fait, ouais, que des conneries. Et donc, ses employés, ils sont souvent navrés,
hein, c'est ça,
par leur,
c'est
patron.
Ça. Ils le subissent.
Ils le subissent beaucoup.
Mais ils l'aiment.
Il l'aime un peu, plus ou moins quand même.
Oui, hein, tout dépend quoi. En
clair. Voilà, ça dépend des jours. Alors, ils sont, c'est intéressant parce que les personnages sont très très bien
campés.
Pas que j'allais dire caricaturés, mais campés. Voilà, tout à fait. Alors, on a Dwight qui est un peu, bah, le, comment dire, le lèche-botte.
Ouais, tout à fait.
Il adore Michael, il veut être son ami aussi, et donc, mais Michael, bon, il comprend que Dwight fait tout ça juste pour lui faire plaisir.
Ouais,
alors qu'il
intérêt.
Veut que les gens soient vraiment son ami, quoi.
Ouais.
Et puis on a des couples, hein, aussi qui se forment, on va pas trop dire, mais il y a le personnage le plus sympathique, c'est Jim.
Tout à fait.
Et Pam aussi à l'accueil. Et on a les comptables, on a la DRH.
Exactement.
Et moi, oui, vas-y Romain, et vas-y,
ce que j'aime dans cette
série. Relais.
Non, non, mais je.
Non, mais moi c'est bon.
Ah d'accord. Ce que j'aime justement dans cette série, c'est qu'en fait, au départ, si tu pitches le truc, tu te dis, t'as une série sur la vie de bureau, ça va être chiant.
Ouais.
Et quand tu démarres le truc, ça va être embêtant. Oh pardon, ça va être embêtant.
Ah non, c'est pas pour ça. Ah, d'accord. C'est simplement la vie de bureau embêtante. Ah non, ça peut être vachement croustillant.
Celui-ci. Oui.
Surtout que c'est un open space.
Ouais, c'est ça.
Alors là, doublement croustillant.
Mais c'est vraiment très atypique cette série. C'est-à-dire que quand tu regardes au départ, ça fait un peu ovni. On n'a jamais vu quoi que ce soit qui ressemble à ça. Alors bien que ça a été effectivement piqué d'ailleurs. Alors j'ai oublié le nom, mais tu sais que quand j'étais...
Ricky Gervais.
Oui, justement, donc je t'avais conseillé une série qui était pas forcément fun,
ah
mais
non,
que j'avais
c'était
adoré.
Vrai, c'était sur le deuil.
Oui, mais j'avais trouvé ça super. Ben, alors, effectivement, c'est très atypique. Même le générique après est culte aussi, finalement.
Ah bah oui, carrément. Ça mais se passe à Scranton, une ville, je pense qu'il n'existe,
oui,
pas.
Oui, non,
hein,
je pense pas.
Mais ça se passe en Pennsylvanie. On est à 2 heures de New York. C'est très important.
Et je pense que Carell dans cette série, il est au sommet de son art.
Ah ouais,
franchement,
carrément.
Je l'ai jamais vu aussi bon. Alors, moi, je l'aimais bien dans pas mal de films. Effectivement, t'avais cité Little Miss Sunshine, je le trouve, ouais, hyper
bon. Et 40
bon.
Ans toujours plus haut.
Ouais, ou même, il a fait une série qui s'appelle Air Force, je crois.
Ah ouais,
où,
c'était pas
non, c'est pas son meilleur, ça.
Ouais, mais j'ai trouvé que, ouais, c'était sympa de l'avoir parce qu'il est bon. Dans
j'ai retrouvé le titre de la série de Ricky Gervais, c'était Afterlife.
Ouais, c'est ça. Ah, j'ai adoré.
Alors, par contre, The Office, c'est drôle.
Ah oui,
c'est
ça.
C'est vraiment, il y a des épisodes où on a vraiment ri aux éclats, quoi.
Ah, c'est
parce que Steve Carell, il fait le show, quoi.
Exactement.
Et il est pas toujours clown. Parce que quelquefois, il a des passages à vide, un petit peu.
Exactement.
Parce qu'il se fait un petit peu embobiner par les femmes, en particulier par Jane.
Ouais. Qui est magnifique.
Et très belle femme, mais qui est très, très, qui est complètement folle, en fait.
Castratrice aussi, un peu.
Castratrice et givrée.
Ouais.
Et puis quelquefois il passe à côté de belles histoires parce que je sais pas, à cause du physique, à cause de la gentillesse de la personne. Enfin, il voit pas en fait forcément le
il mais en même temps, côté.
Il voit pas le mal quoi en clair.
Ah, il voit pas le mal et il voit pas non plus le bien.
Non, mais
il voit rien. On dirait Pablo nous dirait, il est par-delà le bien et le mal.
Oula.
Il est Nietzsche, hein.
Ouais, mais en même temps, il est excellent. Alors, c'est ça qui est assez drôle, c'est que on le dépeint aussi, et c'est forcément la série nous pousse à le voir un peu comme limite un imposteur, parce que c'est plus, on a l'impression qu'il est pas bon.
Les employés le disent.
Voilà. Mais au final, quand il s'agit de conclure une vente ou quand il s'agit de faire un truc, c'est le patron, quoi. Et il se dévoile dans les moments où finalement tu l'attends pas.
Ouais.
Et c'est ça qui fait aussi la richesse de ce personnage, c'est qu'il est vraiment plein de facettes.
Il est plus complexe, effectivement. Au départ, tu dis c'est un clown, c'est un gamin, il est immature.
Exactement.
Et en fait, il est seul.
Ouais.
Il veut avoir des amis. Sauf qu'il est pas dans le bon contexte, c'est-à-dire que ses employés sont pas ses amis, mais lui, il comprend pas ça.
Je pense qu'on peut dire, on peut dire de lui, et c'est un euphémisme, qu'il est assez maladroit dans sa relation sociale et même physiquement. J'ai envie de dire, il y a ce côté-là. Mais vraiment, c'est ça, c'est grandeur et décadence d'un grand gamin, quoi.
C'est sur Netflix, hein, vous pouvez le voir sur la plateforme. Et puis, bien, sinon, n'hésitez pas, parce que vraiment,
c'est
la première saison, c'est bizarrement, c'est pas la meilleure.
Non.
Ça démarre doucement.
C'est ça.
Il y a pas beaucoup d'épisodes d'ailleurs dans la première saison.
C'est ça.
Mais à partir de la deuxième saison,
ça prend son nom.
Voilà, c'est extraordinaire.
Tout à fait.
Et on s'ennuie pas. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que d'un épisode à l'autre, pourtant ça se passe dans le bureau, alors quelquefois à l'extérieur, mais on s'ennuie pas. Il y a toujours des histoires.
Et c'est très addictif. Hein. C'est-à-dire qu'au début, tu commences effectivement, il faut qu'il y ait les personnages qui soient campés. Après, tu commences à effectivement toutes les petites histoires parce que les personnages secondaires sont très bons eux aussi.
Ouais.
Et tu te prends au jeu et tu dévores, quoi. Tu dévores, c'est vraiment la série. Si t'es passé à côté, il y a des séries comme ça où faut pas passer à côté,
ouais.
Comme Les Sopranos, comme
Six
The Wire,
Thunder.
Six Feet Under. Et celle-là, c'est pareil, c'est quelque chose. C'est pas du tout le même style, bien sûr, mais quand tu commences à mettre à regarder, c'est addictif. Tu la binge watch.
Ouais,
c'est
hilarant,
pas faire autrement.
C'est hilarant.
C'est vraiment génial.
Et faut pas que j'en dise trop.
Non, tu peux un petit peu mettre l'eau à la bouche.
Non, mais vous inquiétez pas, je pense qu'on a déjà suffisamment.
Ah oui, d'accord, d'accord. Bouche,
hein. Par exemple, si vous aimez, je pensais, voyez, plus récemment, il y a une série qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine.
Oui.
Voilà, on est dans cet esprit drôle et déjanté, en fait.
Punchline aussi rapide, quoi.
Ouais, et puis alors, il y a un nombre de mèmes internet tirés de The Office.
Non,
c'est extra.
Ouais,
c'est sûr. Il y a des punchlines, des mèmes. Donc, regardez The Office, US. Excellente série.
Exact. À dévorer. Sans modération.
Sans modération.
Ah ouais.
Et sans modération, je vous propose un petit morceau de musique.
Bah avec plaisir.
Je vous propose un petit morceau de Gossip. Gossip Maneskin, c'est le dernier morceau qui est sorti avec feat Tom Morello.
Rage Against the Machine.
Donc là, c'est parti, c'est maintenant.
Dans Bad Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Hey. like that in Monoskine? Fucking hell! Yeah!
Et je coupe le son et je remets le son.
Elle avait un chat dans la gorge, Bess Ditto.
Bess Ditto, elle a changé de voix.
Elle a changé de voix, ça c'est clair.
En fait, c'est plus elle, c'est un homme qui chante.
Ouais, c'est un homme qui chante.
Mais musicalement, on reconnaît bien Gossip. Ouais.
Et on applaudit la technique.
Bon, il y avait Tom Morello, on a reconnu sa guitare. Hein,
ah, cette auto-satisfaction du mec au platine.
Ah ouais, ouais.
Ah, les techniciens. Il s'envoie des applaudissements. Hein ? Ouais, c'est mérité.
Il est trop fort. Alors, Seb, tu nous as prévu un dernier morceau de musique ?
Ouais, je vous ai prévu un petit dernier.
Ah, c'est cool. Alors,
un tout petit dernier.
Ben, on va dire peut-être au revoir alors à nos auditeurs.
Il est moins 5. Ça va
se terminer. À nos auditrices surtout pour cette journée du 8 mars.
Tout à fait.
Alors, on se retrouve dans 2 semaines. On espère avec Pablo.
Hein ouais, on le salue.
Normalement, nous, on devrait être là, les gars. Dans
normalement, ça devrait
donc,
être bon.
On se retrouve le 22 mars, si je ne m'abuse. Non, le 22, c'est ça.
Le 22.
Et on se quitte avec quoi, Seb?
The Young Gods.
Ah, les Young Gods. Un groupe suisse génial qu'on a vu avec Florence en concert au Motocultor Festival au mois d'août dernier.
Massé Ferguson.
Non, c'était ça. Il y a une scène qui s'appelait la Massé Ferguson.
Oui. Ouais, mais bref. Là, ça va être Kissing the Sun.
Kissing the Sun. Dans Bande Geek Mafia, un chef-d'œuvre.
On en fait des bisous justement.
Et bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut, à bientôt.
Salut, à bientôt.
Salut. Wouh.